L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée au printemps arabe et à François Bujon de l'Étang que nous recevons avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Thierry Pech, directeur de la rédaction d'Alternatives économiques, et avec Jean-Louis Bourlange, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. François Bujon de l'Étang, bonjour.
Bonjour.
Après les révolutions tunisiennes et égyptiennes l'hiver dernier, une vague de contestation balaie plusieurs pays du Maghreb et de la péninsule arabique. En Tunisie, le président Ben Ali a quitté le pays mi-janvier. Il a été condamné par contumace à 35 ans de prison et 45 millions d'euros d'amende pour détournement de fonds publics, il y a 3 semaines. En Égypte, le président Hosni Moubarak a démissionné mi-février. Son procès doit s'ouvrir début août, tandis que l'armée au pouvoir a annoncé la tenue d'élections législatives au mois de septembre. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé des réformes en avril. Il a encouragé la réunion d'états généraux de la société civile il y a un mois, sans calmer les revendications de la population. Pour autant, au Yémen, à Bahreïn, à Oman, en Libye, en Syrie, la répression des pouvoirs en place est plus violente. Le président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, a été blessé début juin dans un attentat. Il a été remplacé à la tête du pays par le vice-président. À Bahreïn, la population, en majorité chiite, s'oppose au roi Ahmad Ben Issa al-Khalifa sunnite, qui a levé début juin l'état d'urgence proclamé le 15 mars. En Libye, l'est du pays est contrôlé par les rebelles appuyés par les forces de l'OTAN, entré en action militaire depuis le 31 mars, et en dépit des offensives sur Tripoli, le colonel Kadhafi rejette fermement toute idée de départ. Enfin, en Syrie, le président Bachar al-Assad réprime l'opposition de manière sanglante depuis 3 mois, malgré les condamnations de la communauté internationale. François Bujon de l'Étang, vous êtes ambassadeur de France, ce qui est une dignité, non pas une fonction. Vous êtes conseiller pour les affaires internationales de Citigroup France, dont vous avez été président de 2003 à 2010. Vous êtes également membre des comités de rédaction de la Revue des Deux Mondes et de l'édition française de Foreign Policy. Vous avez été, au cours de votre carrière, conseiller du Premier ministre pour les affaires diplomatiques, la défense et la coopération. C'était auprès de Jacques Chirac. Vous avez été ambassadeur de France au Canada et aux États-Unis entre 1995 et 2002. Et vous avez publié en avril dans la Revue des Deux Mondes un article intitulé « Printemps arabe, l'embarras des diplomates occidentale ». Vous écrivez que les observateurs du monde arabe percevaient depuis des années le développement d'un malaise économique et social persistant, nourri par une démographie incontrôlée, le chômage massif des jeunes, l'absence de toute perspective entretenue par une vie publique cadenassée, ne laissant aucun espace aux libertés, l'omniprésence de la corruption et la sclérose de régimes en place depuis trop longtemps, fermés à toute évolution. Vous vous intéressez principalement à la difficulté des diplomaties occidentales à appréhender le phénomène. Selon vous, cette difficulté s'explique par la soudaineté du soulèvement et parce que depuis 1979, je vous cite, les gouvernements occidentaux ont littéralement pactisé avec ces régimes renversés ou contestés, tout en les sachant parfaitement autocratiques et corrompus, au nom de la nécessité de faire barrage au développement de l'islamisme et de lutter contre le terrorisme. Vous rappelez que les États-Unis et l'Union européenne sont engagés à des degrés divers dans la région. L'Arabie saoudite, écrivez-vous, reste la clé du dispositif stratégique américain au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, car la péninsule arabique assure l'approvisionnement des États-Unis en pétrole et parce qu'elle demeure opposée à l'Iran. De son côté, l'Union européenne, que des accords d'aide et d'association lient aux 3 pays d'Afrique du Nord, est davantage préoccupée par la Libye et le Maghreb. Selon vous, l'Union se sent directement concernée par les problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures comme par les problèmes d'immigration. Vous évoquez le naufrage de la diplomatie française et soulignez qu'Israël, cette seule démocratie du Moyen-Orient, n'a jamais exprimé la moindre sympathie pour les aspirations à la liberté qui s'y exprimaient. À vos yeux, les États-Unis sont la seule puissance qui donne l'impression de s'être tirée jusqu'à présent sans accroc d'une situation riche en danger et peut-être même d'avoir gagné en crédit auprès des masses arabes. Vous affirmez que Barack Obama est parvenu à donner l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Ce comportement tient pour vous à 4 facteurs, le poids des États-Unis et leur importance dans la région, la personnalité de Barack Obama, son discours du Caire de 2009 qui recherchait des convergences profondes entre les valeurs de l'Amérique et celles de l'islam, et enfin l'habileté de la diplomatie américaine. François Bujon de l'Étang, pensez-vous que l'attitude des diplomaties occidentales lors de ce printemps arabe, leur et nous, soit préjudiciable à long terme ?
Mon Dieu, il est bien tôt pour se prononcer sur ce point. Enfin, je ne veux pas paraphraser Chuen Lai et sa fameuse réponse sur les conséquences de la Révolution française. Quand on lui a posé la question, il disait qu'il est trop tôt pour se prononcer. Mais pour ce qui concerne les révolutions arabes, nous sommes certainement à l'acte 1 d'une pièce qui va être assez longue. Et il est impossible d'en tirer les conclusions. L'article de la Revue des Deux Mondes, que vous avez l'amabilité de citer, a été rédigé au mois de mars. Au vu des révolutions en Tunisie et en Égypte, et bien entendu des événements qui se passaient dans la péninsule arabique, notamment à Bahreïn. Le dénouement n'était pas encore intervenu à Bahreïn. Aujourd'hui, on voit que les révolutions se poursuivent, mais que le printemps n'est arrivé qu'en Tunisie et en Égypte. Ailleurs, il n'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, c'est une insurrection, c'est la manifestation d'aspirations profondes d'une population très jeune et qui exprime à la fois ses frustrations et bien entendu ses appétits de liberté, de démocratie, mais aussi ses appétits économiques, d'emploi, de travail, de reconnaissance, de modernité. Mais par contre, la répression s'exprime. Elle s'est exprimée en Libye de façon très éclatante, au point de provoquer une intervention des puissances occidentales. Elle s'exprime en Syrie de façon révoltante, jour après jour, et depuis près de 3 mois. Elle s'est exprimée dans d'autres pays arabes aussi, et au fond, jusqu'à présent, les deux seuls qui aient donné l'impression de parvenir à une éclaircie, à un printemps, sont bien les révolutions tunisiennes et égyptiennes. Donc, le dernier mot est loin d'être dit, et les événements continuent de se dérouler. Les diplomaties occidentales ont été surprises par ces événements. C'est extraordinaire, puisque, je le dis d'ailleurs dans cet article, très souvent, dans les grands événements historiques, tout le monde est très surpris, alors qu'on s'aperçoit en les analysant ensuite qu'ils étaient faciles à prévoir. Je cite même Albert Thibaudet, n'est-ce pas, qui disait, je crois de façon très juste, c'est quand les événements se sont produits qu'on s'aperçoit combien ils étaient faciles à prévoir. Il est exact qu'il faut rendre justice aux analystes, aux diplomates, que dans beaucoup de pays arabes, le malaise très profond et déjà assez ancien avait été bien analysé. Il était bien analysé par les correspondances diplomatiques, puisque Wikileaks a eu, j'allais dire, l'obligeance de publier la correspondance diplomatique américaine. Regardez-la et vous verrez que les diplomates américains dans les pays arabes analysent fort bien le malaise qu'aujourd'hui on voit analysé à longueur de colonnes de journaux. Donc on savait tout cela. Ce que l'on ne savait pas, c'est que le risque d'une explosion était proche. Et lorsque celle-ci s'est produite, elle a en effet surpris tout le monde. Dans le cas, en outre, des événements de Tunisie, la rapidité du dénouement a été également une très très grande surprise. Personne ne s'attendait à ce que M. Ben Ali prenne la fuite de façon aussi piteuse le 14 janvier. Si vite, n'est-ce pas ? Et en Égypte, les choses se sont passées également assez vite. Ça a été plus difficile. Le président Moubarak a fait différentes tentatives pour se maintenir, pour faire des discours d'ouverture. Mais au fond, la messe était dite et il a dû lui aussi partir, non pas pour l'étranger, mais pour s'exiler au sein de son propre pays. Donc, les diplomaties occidentales, les gouvernements occidentaux ont été surpris par la rapidité des événements, par la rapidité des dénouements, et elles ont été prises à contre-pied parce qu'au fond, tous ces gouvernements arabes dont on dit aujourd'hui pique-pendre et dont on souligne l'archaïsme, la corruption, l'autoritarisme, sont des gouvernements avec lesquels l'Occident entretenait des relations étroites depuis des décennies. Et c'est cela l'événement qui est le plus embarrassant pour les pays occidentaux, pour la diplomatie occidentale, que je confonds dans une même analyse. C'est sa compromission profonde avec des pays arabes qui, au fond, niaient dans leur existence quotidienne toutes les grandes valeurs auxquelles les démocraties occidentales sont attachées.
Pardon, mais est-ce que les États-Unis n'étaient pas également compromis, par exemple, dans le financement de l'armée égyptienne ?
Bien sûr que si, il l'était comme tout le monde, toutes les diplomaties occidentales, y compris la diplomatie américaine. D'ailleurs, je ne devrais même pas dire occidentale, parce qu'on pourrait parler de la diplomatie russe aussi, bien sûr, qui, elle, s'est appuyée ouvertement sur les régimes parfois les plus autocratiques et les plus anti-occidentaux, parce que ça l'arrangeait dans ses desseins diplomatiques.
Si je vous posais une question, si je vous faisais cette objection, c'est parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, vous soulignez que les États-Unis s'en tirent mieux que les autres.
Oui.
Et que donc ils ont rattrapé, ou au moins partiellement, cette attitude qui était là.
Oui, ils s'en sont tirés mieux que les autres sur la Tunisie et l'Égypte, sans aucun conteste. Et ils s'en sont tirés mieux qu'ils ne s'en étaient tirés dans des épisodes précédents, qu'on pourrait comparer dans une certaine mesure, je pense à la révolution iranienne de 1979, dans lesquelles les États-Unis étaient également pris à contre-pied, puisqu'ils étaient le plus fort soutien du Shah et du régime du Shah, et qu'ils ont laissé tomber, c'est vraiment l'expression, je crois, que l'on peut employer, le Shah dans des conditions particulièrement spectaculaires à l'époque. La façon dont ils se sont détournés du président Moubarak, dont ils ont préconisé son départ, dont ils ont accompagné l'exil intérieur, a été moins spectaculaire et moins brutal dans son expression. Le résultat est le même, me direz-vous, mais il n'y a pas eu cet effet d'abandon. Encore que certains au Moyen-Orient, je pense en Israël notamment, mais aussi sans doute en Arabie Saoudite, s'inquiètent ouvertement de voir que les États-Unis, parfois, ne restent pas fidèles à leurs alliés.
Michael Avigal.
Oui, je voulais, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mentionner brièvement le cas du Maroc, qui me paraît un cas intermédiaire entre ce que vous avez si bien décrit, la répression qui s'abat ou qui s'abattait et qui fait maintenant partie d'une intervention militaire en Libye, la Syrie, Bahreïn, et de l'autre côté, la Tunisie, l'Égypte, où on a réussi, même s'il y a eu des morts, mais on a quand même réussi un règlement, un dénouement, en quelque sorte, relativement pacifique. Alors le cas marocain, je le trouve à plusieurs égards intéressant, parce que d'un côté, on a l'impression que, pour une fois, le rôle de la France était vraiment le rôle, on en a peu parlé d'ailleurs, d'un conseil. On sait que le roi Mohamed VI est venu à plusieurs reprises s'entretenir dans la discrétion la plus totale avec le président de la République, et que le vrai travail qu'on aurait espérer qu'il se fasse aussi pour la Tunisie auparavant, c'est fait, c'est-à-dire de conseiller de passer à une étape, à l'étape suivante, c'est-à-dire de vraiment réformer en profondeur le système politique, de permettre une vraie participation démocratique, et on voit en tous les cas l'ébauche de cette réforme avec le grand discours du roi récemment, et aussi la volonté en tous les cas exprimée. Faut voir si ça va arriver, mais exprimer de faire passer des compétences à des institutions démocratiques qui étaient jusqu'à maintenant exercées de façon autoritaire par le roi lui-même. Alors, je me demande comment vous jugez ce cas marocain, et aussi, est-ce que ça va suffire justement pour calmer en quelque sorte ce mouvement qui se passe dans ce pays ?
François Bujon de l'État.
Le cas du Maroc est très singulier et très intéressant. Le Maroc, bien sûr, est un pays qui entretient une relation très intime avec la France, et la relation des autorités marocaines avec les autorités françaises est une relation d'intimité. C'était vrai avec Hassan II, ça l'est avec Mohamed VI. C'est une relation continue et étroite. La position objective du Maroc est très différente de celle de la Tunisie et de celle de l'Algérie aussi. On parle toujours des révolutions arabes comme si c'était un tout uniforme. En réalité, chacune d'entre elles s'exprime avec des idiosyncrasies propres à son pays. Et je crois qu'au Maroc, la principale de ses particularités, c'est que le Maroc est une monarchie. C'est une monarchie, le roi du Maroc, outre qu'il est le roi du Maroc et qu'il est arrivé sur le trône par succession hiérarchique classique, est commandeur des croyants. Ceci lui donne une position très particulière. Et un certain nombre d'analystes se sont d'ailleurs efforcés de généraliser cela en considérant que les monarchies arabes, d'une façon générale, ne se trouvent pas dans la même situation que les dictatures arabes. je veux dire, un Nasser, un Moubarak, sont des gens qui sont arrivés au pouvoir par la force des armes ou par des coups d'État, qui s'y maintiennent et qui s'efforcent ensuite d'assurer une succession
dynastique,
qui n'est pas du goût, bien entendu, des populations et des manifestants. Les monarchies n'ont pas ce problème. Elles sont là. Alors, c'est vrai du Maroc, c'est vrai de la Jordanie, c'est vrai de l'Arabie Saoudite. Nous pourrons en parler tout à l'heure. Mais dans le cas du Maroc, nous avons en outre à faire face à un souverain jeune qui, depuis longtemps, a fait profession de s'intéresser au modernisme et qui, à la faveur, effectivement, de ce grand mouvement, notamment de la jeunesse arabe, prend les devants, en quelque sorte, et propose des modifications constitutionnelles et l'introduction d'une pratique démocratique avec une majorité parlementaire, un gouvernement et un premier ministre issus de cette majorité qui vont tout à fait dans le sens des revendications de beaucoup de manifestants arabes. Alors, qu'il se soit ouvert de ses idées aux dirigeants français à diverses reprises, qu'il les ait consultés, ne fait en effet guère de doute, mais je pense qu'il faut lui faire crédit, à lui, d'avoir fait preuve ou de faire preuve en ce moment de lucidité, de courage et effectivement d'un esprit de modernisme qui n'est pas très courant parmi les dirigeants arabes. Donc le Maroc, à ce titre, est un des exemples les plus encourageants que nous ayons vus jusqu'à présent. Il est vrai aussi que les manifestations qui y ont eu lieu n'ont pas revêtu le même caractère de violence ou de radicalisme que ce que l'on a vu dans d'autres pays arabes. Il y a eu des manifestations, certes, à diverses reprises dans les grandes villes marocaines. Il n'y a pas eu de répression vigoureuse ou féroce ou sanglante. Il y a eu simplement un maintien de l'ordre respectueux, je crois, des vies humaines. Et du coup, vous ne trouvez pas au Maroc l'acrimonie ou le degré de frustration qui ont caractérisé les manifestations qui se sont déroulées, par exemple, en Tunisie ou en Égypte.
Thierry Pêche.
J'avais deux questions. La première, c'est comment vous expliquez-vous que le processus soit allé, non pas à son terme, mais qu'il ait été porté à une certaine maturité en Tunisie et en Égypte et pas dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des raisons structurelles à ça ? Est-ce que, par exemple, le fait que ces deux pays ne soient pas détenteurs d'une manne pétrolière importante a joué ? Est-ce que la maturation des processus démographiques était plus avancée dans ces pays-là ? Bon, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique la singularité de ces deux pays qui sont les plus avancés dans un processus de démocratisation ? Et la deuxième question, qui est plus difficile, néanmoins, j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus, c'est on peut se dire que dans ces deux pays, le verrou qui empêchait la démocratisation a sauté. Mais il y a un deuxième problème posé par ces révolutions arabes, c'est le problème économique et social. Et lui reste tout à fait entier. Quand on regarde le paysage économique de ces pays, on est fondé à éprouver une assez grande inquiétude. D'abord, les prévisions de croissance pour 2011-2012 ont été abaissées de moitié. Le tourisme, qui est tout de même une ressource importante dans ces pays, s'est absolument effondré. Les investissements sont gelés et les dépenses des États vont croissant, notamment pour acheter la paix sociale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les analyses diplomatiques, si vous en avez connaissance, je dirais, une lueur d'espoir pour fonder un autre modèle de développement que celui qui est allé dans le mur, finalement, avec les régimes anciens?
François Bujon de l'État.
Ce ne sont pas des questions simples. La première est probablement la plus facile. En Tunisie, comme en Égypte, il y a quelques caractéristiques communes. La première, c'est l'existence de classes moyennes qui sont très développées. C'est le cas de la Tunisie, essentiellement, plus encore qu'en Égypte. La Tunisie a connu toutes ces dernières années un développement économique notable, avec un bon taux de croissance, et elle a un niveau d'éducation qui est très élevé. Les classes moyennes y sont bien représentées, y sont relativement prospères, et il existe par conséquent un réceptacle pour les idées ou pour le débat d'idées qui est très substantiel. C'est vrai aussi en Égypte, qui a toujours eu une classe intellectuelle très, très, très développée, les médecins, des avocats, des professeurs d'université, des légistes ou des philosophes. Et le débat d'idées existait dans ces deux pays. Il était bien entendu réprimé par la façon dont la vie publique était encadrée, mais il existait depuis toujours. Donc c'est une première caractéristique. La seconde caractéristique commune à ces deux pays, encore qu'elle s'exprime différemment, est le rôle de l'armée. Et elle donne la clé des dénouements rapides, en réalité. En Tunisie, vous avez une armée qui est petite, bien entraînée, bien équipée, mais qui avait été tenue à l'écart de l'exercice du pouvoir par le régime Ben Ali. Elle était en quelque sorte neutre. Et c'est elle qui a fait basculer et qui a précipité le dénouement lorsqu'elle s'est rangée aux côtés des manifestants, finalement, et a expliqué au président Ben Ali que c'était terminé, qu'il fallait qu'il s'en aille. En Égypte, c'est autre chose. L'armée encadre le pouvoir depuis toujours, depuis les années 1950 en réalité. Depuis le nasserisme, l'armée offre un cadre extrêmement rigide, mais extrêmement compétent, extrêmement hiérarchisé, non seulement à la vie politique, mais à la vie économique du pays. Elle aussi tenait entre ses mains le sort du président, issu, lui, de l'armée, comme ses prédécesseurs. Là encore, c'est elle qui a précipité les événements. Elle a fraternisé avec les émeutiers, elle n'a jamais accepté de tirer sur la foule, elle a sympathisé, place Tahrir, et même parfois est intervenue pour les défendre contre des malandrins poussés par le régime. C'est elle qui a, à un certain moment, retiré son soutien à Moubarak et précipité l'évolution des choses. Donc ce sont deux caractéristiques qui expliquent que dans ces deux pays, le dénouement ait été rendu possible ou facilité par l'armée. Voilà. Pour le reste, ce que vous dites, bien entendu, de l'aspect économique des choses est extrêmement important, parce que vous avez absolument raison de souligner que dans les revendications qui s'expriment lors des manifestations dans les différents pays arabes, les revendications de type économique sont aussi importantes que les revendications de type politique. Bien sûr, il y a un appel aux libertés publiques, au respect des libertés publiques, à la démocratie, à l'expression libre des idées et à l'établissement de régimes beaucoup plus libéraux. Mais il y a aussi une formidable frustration économique qui s'exprime. Et c'est la jeunesse qui en est l'expression la plus éclatante. La démographie de ces pays est assez semblable. Tous comportent une jeunesse extrêmement nombreuse et tous ont fait des efforts importants pour l'éducation au cours de ces dernières années, ainsi que pour l'éducation des femmes, d'ailleurs. C'est tout à fait visible en Tunisie et en Égypte, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays arabes. Et le résultat a été évidemment à l'inverse de ce que les promoteurs de ces efforts espéraient. C'est-à-dire que vous avez un très grand nombre aujourd'hui de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et qui n'ont pas de débouchés, pas de perspectives, et leur frustration est exacerbée, bien entendu, par l'impossibilité de s'exprimer au plan politique. Mais en outre, il y a de plus en plus de diplômés et de diplômés d'université qui ne trouvent pas d'emploi. Vous avez donc à la fois cette espèce de chômage des jeunes très structurel et un chômage des diplômés qui est de plus en plus grand et qui ne cesse d'augmenter. Donc on comprend que la situation soit explosive. C'est vrai dans l'ensemble du monde arabe. Et les jeunes sont évidemment le fer de lance des protestations actuelles. Alors, c'est vrai qu'on peut être relativement optimiste dans des pays comme la Tunisie ou comme l'Égypte sur l'évolution des scénarios politiques. Si vous êtes optimiste, vous pouvez penser que, en effet, des élections vont être organisées, que des partis politiques sont en train de se créer, que la liberté d'expression va donner lieu à des consultations qui seront, dans l'ensemble, satisfaisantes et qui permettront d'aboutir à des régimes transitoires qui auront à créer des institutions. Mais l'économie, elle, a des exigences immédiates. Et on peut craindre que l'évolution politique soit effectivement perturbée par la poursuite d'une frustration économique très grande. D'autant plus plus que dans des pays comme la Tunisie ou comme l'Égypte, l'économie était très largement fondée sur le tourisme. En tout cas, les recettes de la balance des paiements étaient très abondamment fournies par le tourisme. Le tourisme s'est effondré dans des proportions cataclysmiques et ces pays aujourd'hui ont un grand besoin d'aide internationale pour faire face simplement à leurs échéances immédiates. L'Égypte, ce n'est pas nouveau dans son histoire. Tout le monde se souvient d'épisodes précédents au XIXe siècle ou au XXe siècle. L'Égypte a un sérieux problème de paiements internationaux et la communauté internationale se mobilise d'ailleurs pour lui venir en aide. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis ont promis de l'argent, l'Union européenne aussi, le Fonds monétaire aussi. Tout ça est en train de s'assembler et de se mettre en place, mais il reste que le modèle économique de demain reste à inventer et que dans l'immédiat, il faut réamorcer la pompe, en tout cas, des paiements, de l'emploi. Donc il faut espérer qu'on trouve les moyens de rétablir les flux touristiques, les flux de marchandises et les retours également des immigrants. Je ne parle pas de retour physique, mais je parle de retour financier des immigrants qui contribuent généralement aussi à la balance des paiements courants.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, vous analysez effectivement avec beaucoup de pertinence et une plus qu'une pointe d'autocritique l'embarras des diplomaties occidentales qui n'ont pas été vertueuses et qui ont souffert de compromissions importantes avec des régimes qui ne méritaient pas beaucoup de crédit et d'estime. Cela dit, à l'inverse, ce qui est frappant, c'est que c'est un triomphe idéologique de l'Occident, en apparence au moins, que ces révolutions, puisque on voit partout des jeunes gens qui se mobilisent pour la démocratie, les libertés, la forme la plus classique, la plus classiquement occidentale, européenne de la démocratie, qui paraissent relativement indifférents, du moins dans le cœur des manifestations, aux enjeux classiques sur la mise en cause d'Israël, le sionisme, qui ne brûlent pas de drapeau américain, qui... Enfin, un renoncement à tous ces rituels classiques de la rue arabe qui sont impressionnants et qui ne paraissent pas non plus profondément travaillés par l'intégrisme religieux. Les frères musulmans, notamment en Égypte, ayant joué un rôle relativement attentiste pendant toute cette période. Donc on a à la fois cet embarras diplomatique et puis ce triomphe un peu fukuyamesque, si je puis dire, c'est-à-dire que les valeurs occidentales se répandent en dépit de tous ceux qui professent la guerre des civilisations. Bon. Mais, et vous paraissez en déduire le fait que, si la situation économique est difficile, la situation politique est quand même en bonne voie, et en Tunisie et en Égypte. En êtes-vous aussi sûr que cela ? Est-ce que vous croyez que c'est dans ces deux pays, je pense surtout à l'Égypte, on est arrivé, on voit s'esquisser déjà une complémentarité des rôles, un équilibre des forces politiques, qui soit satisfaisante. Est-ce que l'armée a vraiment renoncé? Est-ce que les frères musulmans seront durablement contenus? Est-ce que cette jeune démocratie, ces jeunes forces démocratiques en Égypte vont véritablement émerger à la faveur des élections? Je suis aussi dans l'embarras sur ce plan-là, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan politique. Je voudrais qu'on voit si vous comment vous justifiez une appréciation relativement optimiste. Puis la seconde question que je voulais vous poser...
À propos de l'Égypte que vient d'évoquer Jean-Louis Bollange, j'ajoute les Coptes, sort que vous leur imaginez, Jean-Louis.
Et la seconde question qui est tout à fait différente, c'est... vous savez, c'est la fameuse histoire drôle israélienne où on voit des Israéliens qui lisent le journal et qui voient le match de football Nicaragua-Équateur et le soldat de Sahal dit à l'autre, est-ce que c'est bon pour nous? Que le Nicaragua l'ait emporté par deux contre un contre l'Équateur, etc. Et là, c'est la même situation. Comment voyez-vous au cœur de cet imbroglio? Alors là, vraiment, qui paraît terriblement insoluble sur le plan politique de l'environnement du Moyen-Orient, enfin la Syrie, le Golfe Persique, le Yémen, mais enfin surtout la Syrie et le Liban, comment voyez-vous, et l'Égypte, effectivement, comment voyez-vous les conséquences sur le conflit israélo-palestinien ?
François-Jean de l'Étang.
Alors, je voudrais dire d'abord à Jean-Louis Bourlange que je ne crois pas pécher par optimisme. Je n'exprime pas vraiment d'optimisme, j'exprime de l'espérance, si vous voulez, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'en Tunisie, en Égypte, la paix civile, la démocratie, les libertés publiques ont une vraie chance. Je ne sais pas ce qui va se passer, bien entendu. Je ne lis pas la boule de cristal. Ce sera très difficile, ça prendra du temps. Il nous a fallu, à nous, Français, plus d'un siècle pour finalement bien enraciner la démocratie. Ce sont des choses qui ne se passent pas du jour au lendemain. Et quand on parle du fameux modèle turc, par exemple, qui est toujours le modèle cité aujourd'hui comme celui d'une démocratie nuancée d'islamisme, il a fallu aussi 80 ans pour l'établir depuis la révolution kémaliste. Donc, patience.
Je vois que le président Chouenla, il vous inspire beaucoup.
Oui. Non, mais patience, et on peut exprimer de l'espoir, effectivement, je crois qu'il faut le faire. Il y a des ingrédients prometteurs en Égypte, mais la partie est loin d'être gagnée. Alors, il y a toutes sortes de choses qui expliquent cela. Il y a des échéances électorales qui sont très très proches, par exemple, dans ces deux pays. Puisqu'on veut y établir une assemblée constituante, de nouvelles règles constitutionnelles, avoir des élections rapides. Les élections rapides, il n'est pas sûr que ce soit une très bonne chose. Et il est très symptomatique de voir que beaucoup d'éléments libéraux, en Égypte par exemple, demandent un report des échéances électorales en pensant qu'aujourd'hui, le seul parti qui soit à peu près organisé et qui puisse s'exprimer est celui des frères musulmans, parce que Moubarak et son régime autorisaient les frères musulmans à participer à la vie politique sous certaines contraintes, mais les y autorisaient, alors que les autres petits partis, les héritiers du Waft ou les partis libéraux traditionnels égyptiens, étaient sauvagement réprimés et ont besoin de temps pour se réorganiser, trouver des financements, participer à la vie politique, mettre leurs affaires en ordre. C'est tout à fait intéressant de constater cela. Il faut donc éviter de précipiter les événements. C'est une leçon en elle-même. En outre, comme Thierry Pech le faisait très justement remarquer, il faut encore que les échéances économiques ne viennent pas créer des événements qui se mettent à la traverse de ces développements. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un triomphe des idées occidentales? Je ne sais pas. C'est en tout cas pas un triomphe de M. Fukuyama, puisque vous y référez, et qu'il se prononçait pour la fin de l'histoire il n'y a pas si longtemps. Les événements actuels montrent qu'elle est loin d'être finie.
Non, mais là, vous caricaturez Fukuyama, parce qu'il appelait la fin de l'histoire, le triomphe des idées démocratiques et libérales.
Je sais, et qu'il n'y aurait plus de débat idéologique. Alors, ce n'est pas vrai, nous allons en voir des débats idéologiques, justement, sur la scène politique de ces pays. Les frères musulmans, dont on parle toujours comme s'ils étaient d'ailleurs une force monolithique, sont une force, au contraire, très divisée, traversée de courants très libéraux, et avec en même temps, bien entendu, des pôles de conservatisme islamique. Il y a au sein même des frères musulmans, à l'heure actuelle, un débat qui est un débat d'idées politiques extrêmement intéressant. Donc tout ceci, encore une fois, ne fait que commencer et va se développer et s'enrichir sous nos yeux. Mais il est vrai que dans ces révolutions qu'on a baptisées les printemps arabes, l'Occident n'a jamais été mis en cause. Et c'est la première fois que cela arrive dans les révolutions des pays musulmans. Pas tout à fait la première fois d'ailleurs, car je crois que le premier de ces printemps, qui malheureusement a été réprimé dans le sang, a été celui de 2009 en Iran. La révolution verte, qui a fait suite à la réélection truquée de M. Ahmadinejad, présente beaucoup de similitudes avec ce que nous avons vu en Tunisie et en Égypte, par exemple. Et c'est d'ailleurs très intéressant de le relever, parce qu'au début, quand ces révolutions ont éclaté en Tunisie, en Égypte, tout le monde s'est référé à la révolution de 1979 en Iran. La révolution islamique, en réalité, c'était une fausse référence. Celle à laquelle il fallait se référer était plutôt celle de 2009, et la révolution dite verte. Mais il est exact qu'en Tunisie, en Égypte ou en Syrie aujourd'hui, personne ne brûle de drapeaux américains, d'effigies occidentales ou de drapeaux israéliens même. Ces références-là ne sont pas des références hostiles. Et c'est extrêmement intéressant sont extrêmement symptomatiques. Alors, en ce sens, oui, c'est une avancée des idées occidentales, puisque ce sont des idées de démocratie, de liberté publique que nous connaissons bien, qui sont invoquées par les manifestants. Il n'en reste pas moins que l'embarras des diplomaties occidentales est venu du fait qu'elles n'avaient pas vu cela, elles n'avaient pas prévu cela, et qu'encore une fois, pendant toutes ces dernières décennies, elles avaient entretenu des relations extrêmement étroite avec des pays arabes dictatoriaux qui foulaient aux pieds, aux vues et aux sues de tous les valeurs que nos démocraties prétendaient et que les démocraties occidentales ont entretenu ces relations parce qu'elles pensaient que ces régimes autoritaires étaient le meilleur rempart à l'islamisme. C'était au nom de la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme que nous soutenions des régimes comme celui de Ben Ali ou celui de Moubarak, n'est-ce pas ? Et cela, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était peut-être une erreur d'analyse et que soutenir des régimes autoritaires, notoirement corrompus et discrédités auprès de leurs propres opinions publiques, contribuait peut-être à nourrir les ferments de l'islamisme plutôt qu'à lutter contre lui. C'est encore une fois dans le rétroviseur que l'on fait aujourd'hui cette rectification d'analyse. Quant à Israël, dont vous parlez, c'est en effet une situation qui nous interpelle. Israël est un pays qui souffre de fièvre obsidionale, bien entendu, et qui analyse toujours tout ce qui se passe autour d'elle en fonction de sa propre sécurité et de sa propre survie. Mais il est paradoxal de constater que la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est Israël, et que Israël n'a jamais, à aucun moment, exprimé la moindre sympathie pour les aspirations démocratiques qui s'exprimaient dans les pays arabes qui l'entourent. À aucun moment. Et qu'au contraire, ce qui s'exprime en Israël, c'est l'inquiétude et c'est au fond la préférence pour des ennemis que l'on connaît, que l'on a dûment répertoriés, plutôt que pour l'inconnu, le chaos ou l'aventure. Au fond, je ne crois pas beaucoup exagérer en disant qu'en Israël, on regrette M. Moubarak et qu'on préfère avoir à traiter avec Bachar el-Assad qu'avec Dieu sait quel chaos qui pourrait se succéder à l'écroulement d'un régime alaouite.
Thierry Pech.
Oui, un mot sur le triomphe des idées occidentales, pour revenir à la question que je vous posais. Le triomphe serait complet si la démocratie amenait dans ses bagages le développement économique. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans la littérature aujourd'hui de toutes les institutions internationales qui se penchent sur le cas des révolutions arabes et qui disent voilà, la démocratie sera favorable parce qu'elle mettra à bas la corruption, etc. Mais enfin, en Chine, ça marche pas comme ça. Singapour, ça n'a pas marché comme ça. On a d'autres exemples. Et finalement, le débat sur les idées occidentales, il est beaucoup là, me semble-t-il. Ferme la parenthèse. J'aimerais savoir comment vous voyez le rôle de la diplomatie égyptienne à court terme, parce que ce serait difficile de vous le demander à moyen et long terme, mais le rôle qu'elle a joué par exemple dans le rapprochement entre le Fatah et le Hamas laisse imaginer une autre posture de l'Égypte dans la région.
C'est bien ce qui inquiète Israël, justement.
Oui, bien sûr, mais vous, quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation de cette diplomatie, de transformation par une forme de nationalisme? Quelle est votre opinion?
François Bujon de l'État.
Je pense que l'histoire ne revient que rarement en arrière et que on ne reviendra pas au nassérisme ou à ce type, si vous voulez, de comportement en politique étrangère. Non, ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans l'espèce de tohu-bohu d'idées qui s'exprime et dans le relâchement, il faut bien le dire, du maintien de l'ordre qui accompagne ces évolutions démocratiques, les Égyptiens s'écartent de l'application stricte et rigoureuse du traité de paix avec Israël qu'ils ont signé il y a quelque temps. Alors, je ne suis pas en train de prédire je ne sais quel rebondissement, je ne sais quel changement de cours. Si vous parlez aujourd'hui aux gens qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir en Égypte, ils vous diront tous qu'ils ont la ferme intention de se situer dans la continuité et de respecter parfaitement les traités conclus. Mais tout est dans l'application, comme toujours. Une des inquiétudes a été, par exemple, le maintien de l'ordre dans le Sinaï ou dans les tunnels qui donnent accès à la poche de Gaza. Il n'est pas sûr qu'en effet l'Égypte d'aujourd'hui ou de demain applique avec la même rigueur le blocus de Gaza que le régime de Moubarak avait précédemment appliqué. Voilà le type d'inquiétude qu'on peut avoir. Pas d'une remise en cause radicale de ce qui a été traité. Je ne le crois vraiment pas, ni pour l'Égypte, ni pour la Jordanie, ni pour les pays qui ont choisi dans l'ensemble la normalisation avec Israël.
Michaela Wiegel.
Oui, je voulais revenir au rôle joué par la diplomatie européenne et au rôle à venir de la diplomatie européenne face à ce qu'on a nommé le printemps arabe. Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre les anciennes puissances coloniales et de protectorat qui ont quasiment par réflexe eu un autre positionnement que les pays comme le mien, l'Allemagne, qui sont toujours arrivés un peu trop tard et qui, par défaut, hein, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas eu la volonté de se compromettre, mais qui étaient moins, disons, compromis en quelque sorte, non pas par choix, mais par manque d'occasion en quelque sorte. J'ai eu l'impression quand même, dans les réactions, qu'il y avait une attitude, une vraie rupture sur le continent européen dans la perception de ce qui se passait. Je peux parler de l'Allemagne qui a eu quand elle a vu les atermoiements de la France une espèce de d'attitude en disant ben oui, nous on l'avait déjà vu depuis longtemps que Ben Ali c'était pas l'avenir et que du coup, l'Allemagne a aussi, en quelque sorte, oublié que son rôle, c'était dorénavant d'être quand même un peu à la pointe du changement. Elle pensait que ça allait de soi, ce qui a abouti, en quelque sorte, avec aussi ce mélange de pacifisme, à une surprise totale contre la France et la Grande-Bretagne, donc les deux anciennes puissances coloniales, ont voulu s'engager dans un conflit militaire en Libye. Est-ce que vous pensez que cela, cette rupture, en quelque sorte, va aussi préfigurer le futur engagement de la diplomatie européenne au Maghreb et sur la péninsule arabe? Et quel avenir pour l'Union pour la Méditerranée?
François Bujon de l'Étang.
Bon, eh bien, j'espère que ça ne préfigure pas une rupture au sein de l'attitude de l'Union européenne. Effectivement, l'attitude de l'Allemagne sur la résolution qui permet l'intervention en Libye a été une très grande déception pour l'ensemble du monde occidental. C'est quand même la première fois dans l'histoire que l'Allemagne ne votait pas avec ses alliés américains, français et britanniques, mais votait avec la Russie et la Chine. Effectivement, c'est un événement en soi. Et je sais très bien qu'il est très controversé en Allemagne même. Et je connais beaucoup de mes amis ou de mes interlocuteurs ou de mes collègues allemands qui sont profondément déçus par cette attitude. Je la rapproche toutefois des réticences de l'Allemagne au début, au lancement de l'Union pour la Méditerranée par le président Sarkozy. Peut-être y a-t-il eu des maladresses du côté français, je ne le nie pas, mais l'Allemagne donne toujours l'impression qu'elle est loin de la Méditerranée, qu'elle ne s'y intéresse pas, qu'elle ne lui accorde pas la même importance géopolitique que le font évidemment des pays riverains comme la France, l'Espagne ou l'Italie qui ont une sensibilité méditerranéenne plus vive. C'est en quelque sorte naturel. Les États ont la politique de leur géographie, disait Napoléon, et ça se retrouve toujours dans toutes les attitudes. Mais face aux défis que nous présentent les révolutions arabes, il est très important que l'Union européenne ait une réponse unifiée. Et j'espère beaucoup que dans l'avenir, nous arriverons à unifier cette réponse et à unifier les moyens de l'Europe. Car on a besoin d'elle, et c'est vers elle que se tournent notamment les pays du Maghreb, essentiellement. C'est surtout de ceux-là qu'il s'agit, les pays du Maghreb et la Libye, qu'on peut y assimiler dans une certaine mesure. Nous avons besoin de nous mobiliser, d'abord pour les mesures d'aide d'urgence qu'il va falloir adopter pour relancer ces économies en panne, et ensuite pour aider à la consolidation des institutions, donner sans doute une certaine coopération technique, d'ailleurs institutionnelle, légale, à la création et à la consolidation de ces institutions, et puis accompagner économiquement la convalescence économique de ces pays. Donc il est très important que l'Allemagne y participe. L'Allemagne est un pays fondamental dans l'Union européenne. Son avenir se joue tout autant que le nôtre dans la Méditerranée. Il faut qu'elle le comprenne. Je sais qu'elle a du mal, mais il faudra y venir. Quant à l'avenir de l'Union pour la Méditerranée, c'est c'est très difficile d'en parler. Ça a été une tentative qui n'a pas été couronnée de succès. Elle a été lancée avec éclat, elle a commencé à travailler. Et puis finalement, tous les interlocuteurs de l'autre côté de la Méditerranée, principaux de l'Union pour la Méditerranée, ont disparu les uns avec les autres. Ben Ali, Moubarak, Bachar el-Assad, Kadhafi ne sont plus guère des interlocuteurs à qui l'on peut s'adresser. Donc voilà quelque chose qui est évidemment en panne, sinon en ruine, et qu'il faudra reprendre en temps voulu avec de nouveaux interlocuteurs.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, vous avez évoqué l'intervention en Libye. Je partage tout à fait la déception que vous exprimez sur le comportement de la République fédérale. Malgré tout, techniquement, je crois que Mme Merkel, avant de prendre sa décision, a consulté ses autorités militaires et qui lui ont exprimé un très grand scepticisme sur la possibilité d'aboutir par les voies stratégiques qui avaient été choisies. Et ici, nous avions eu un débat au Salon du Livre, et deux jours après le lancement de cette opération, le dimanche, et nous avions exprimé, enfin je me rappelle avoir dit notamment que ça me paraissait que l'outil stratégique qui était choisi, c'est-à-dire des frappes aériennes, était assez peu adapté à l'objectif, que ça pouvait peut-être favoriser une partition du pays, mais que ça pouvait difficilement permettre une transformation du système politique. Nous sommes maintenant très avancés dans cette opération, très épuisés. Nous avons des munitions qui font défaut. Nous avons un porte-avions qui est très fatigué, qui a été en mer pendant très longtemps. Nous avons des Américains qui nous regardent avec un peu de scepticisme. Des Italiens qui estiment nécessaire de mettre les pouces. Est-ce que vous considérez, comment considérez-vous qu'on puisse honorablement sortir de cet engagement?
François Pujon de l'État.
Je tiens à préciser que je ne suis pas un promoteur de cette intervention et que je ne suis pas non plus le porte-parole du gouvernement. Donc je ne sais pas comment je dois vous répondre, moi personnellement.
Non, en tant que, c'est votre analyse
personnellement, personnelle. En tant que citoyen français, je suis très perplexe devant cette intervention qui a été décidée pour des raisons humanitaires et pas pour des raisons véritablement stratégiques, très, très réfléchies. Nous avons certainement évité un massacre à Benghazi, c'est probable, en intervenant et intervenant très vite comme nous l'avons fait. Mais nous ne nous sommes guère posé la question au moment de l'intervention de savoir comment celle-ci évoluerait, si elle devait durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Tout ce que vous dites et tous les problèmes que vous soulignez sont exacts. Il y a un essoufflement des forces occidentales, qui d'ailleurs est très révélateur du peu d'épaisseur de notre instrument de défense. On tire toutes les munitions en 2 ou 3 mois, n'est-ce pas ? Et quelques-uns des pays de l'OTAN qui s'étaient engagés plutôt bravement d'ailleurs dans cette affaire dans les premiers jours, comme le Danemark ou la Norvège, sont aujourd'hui rentrés sur leurs aéroports parce qu'ils n'ont plus de munitions, ils le disent. Donc nous ne sommes pas en état de soutenir longuement une opération de ce type tout seul. Et nous bénéficions d'ailleurs d'une aide américaine dont nous ne parlons jamais, mais cette aide est tout à fait importante. Elle est importante sur le plan des radars, sur le plan des AWACS, sur le plan de la surveillance aérienne, sur le plan du soutien et maintenant des drones. Bon. Et d'ailleurs, M. Obama, dans cette affaire, est dans une situation difficile lui aussi. L'intervention n'aurait probablement pas été possible ni même décidée si l'Amérique ne s'y était pas engagée au début. Elle s'y est engagée. Mais elle nous a dit, nous sommes avec vous pour la phase préliminaire. Et puis ensuite, nous nous retirerons et c'est à vous de jouer, chers amis européens. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même passé 10 jours à tirer un très grand nombre de Tomahawks et à détruire intégralement le système de défense antiaérienne libyenne pour que nous puissions poursuivre l'opération. Mais M. Obama est en difficulté aujourd'hui devant son Congrès parce que le War Powers Act voudrait qu'au bout de 60 jours d'une intervention, le Congrès l'autorise à continuer ou ne l'autorise pas, mais se prononce. Il a donc un débat avec son Congrès et il a joué comme sur l'ensemble de ces révolutions arabes, sur le fil du rasoir, en faisant ce qu'il croyait devoir faire, quelquefois le service minimum, comme bon, en Libye, mais il l'a fait, tout en étant sous le feu des critiques de son opposition qui ne lui pardonne absolument rien. En l'occurrence, il était en difficulté avant l'intervention libyenne, parce que des gens comme le sénateur McCain, par exemple, disaient « c'est affreux, notre gouvernement ne fait rien devant une menace de massacre ». Donc il a été poussé par sa propre opposition à intervenir, et aujourd'hui c'est cette même opposition qui le critique. N'empêche que nous sommes bien contents que les Américains soient avec nous dans cette affaire. Quant à Gaddafi, qui a résisté à tout cela, il joue clairement la montre et il joue sur l'essoufflement de l'opération occidentale. Donc il faudra, d'une façon ou d'une autre, sauf événement imprévu, trouver un dénouement, et un dénouement probablement négocié à cette situation qui est aujourd'hui une situation d'impasse.
Jean-Louis Bollange.
Oui, je voulais poser une autre question sur la Syrie. Je voulais savoir si, selon vous, la Syrie, ce à quoi nous assistons en Syrie, ressemble en fait à ce qui s'est passé dans d'autres pays, avec cette différence massive que nous avons un pouvoir qui est délibérément répressif, ou est-ce que nous ne sommes pas dans quelque chose qui ressemble davantage au schéma irakien, c'est-à-dire à une quasi-guerre civile opposant d'un côté une majorité sunnite et d'autre part un ensemble de minorités qui sont fédérés par les Alaouites, mais qui comprennent aussi les Druzes, les chrétiens, enfin tout un ensemble de gens, donc un problème qui est de fragmentation potentielle, qui est infiniment plus difficile à résoudre, indépendamment des fulminations que nous lançons et des condamnations morales très justifiées que nous lançons contre la brutalité du gouvernement.
François Jean Bétain.
Alors vous avez tout à fait raison de souligner la similitude relative avec l'Irak. Le risque de fragmentation est très fort parce que la Syrie, qui est un cas sui generis, c'est une mosaïque d'ethnies et de religions, et qu'elle est contrôlée aujourd'hui par une minorité, la minorité alaouite, qui est installée au pouvoir depuis une cinquantaine d'années. Et que la majorité sunnite subit ce joug. Mais elle est elle-même fragmentée. Il y a des islamistes radicaux en Syrie, il y a des minorités chrétiennes, il y a toutes sortes d'éléments, à la fois ethniques et religieux, qui rendent l'équilibre extrêmement précaire. Alors la similitude avec l'Irak, elle vient du parti Baas, en effet. C'était les deux partis frères au départ, le parti Baas syrien
frères
et le parti
Baas
irakien. Oui, oui, frères ennemis, bien sûr, mais mes frères. Et ce sont des partis laïcs et qui ont permis de maintenir une relative cohésion dans cette mosaïque, en effet, religieuse. Le problème syrien est un problème extrêmement difficile. Il est clair que le régime de Bachar el-Assad joue, lui, uniquement sur la répression, que cette répression est rendue possible par une espèce de garde prétorienne qui s'est constituée autour du pouvoir de la famille Assad. Ce n'est pas l'ensemble de l'armée syrienne. Il y a eu des épisodes que nous connaissons mal, mais qui ont été violents et sanglants au sein de l'armée syrienne. On sait qu'il y a des éléments sunnites qui ont refusé de tirer sur la foule. On sait qu'il y a eu des exécutions sommaires. On sait qu'on a retrouvé des fosses communes dans lesquelles ont été enterrés des dizaines de cadavres de soldats et d'officiers syriens tué d'une balle dans la nuque. On sait tout cela. Ça n'a rien à voir avec la version que nous donne évidemment le gouvernement syrien, qui est celui d'une insurrection. Mais il est très difficile de dire comment les choses vont tourner en Syrie, pour le coup. Et le risque de fragmentation, en effet, une fragmentation de type un peu irakien, existe. J'oublie de dire qu'il y a également une minorité kurde en Syrie, et que c'est un élément de complication supplémentaire. Aujourd'hui, nous avons une répression qui continue, une armée dont la loyauté n'est pas assurée, un pouvoir qui fait de la fuite en avant dans la répression, et le commencement d'une crise internationale, puisque nous avons des réfugiés qui vont soit vers le Liban, soit vers la Turquie. Et la rupture du lien entre le régime turc, d'ailleurs, et le régime syrien est une des conséquences très importantes de cet état de choses.
Un mot, si vous voulez bien, pour revenir sur l'un des thèmes de votre article, qui est celui du naufrage de la diplomatie. C'est un mot que vous, une expression que vous employez.
C'est sur la Tunisie que je le localise.
À propos de la Tunisie. Maintenant, avec ce que nous savons de ce qui est en train de bouillonner dans des pays comme Bahreïn, comme l'Arabie Saoudite, la Syrie dont on vient de parler, le Yémen, Oman, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que l'action diplomatique française et occidentale va changer? Et si elle change en tenant compte de ces aspirations qui ont été exprimées par les peuples, quelle direction peut-elle prendre?
Maintenant, notre diplomatie s'est ressaisie. Après ce choc initial et ce naufrage tunisien dont je parlais, elle s'est ressaisie. Elle a eu le temps de reprendre son souffle, de réviser ses analyses, de prendre langue avec beaucoup d'interlocuteurs nouveaux dans le monde arabe et de s'exprimer avec une cohérence nouvelle. L'arrivée d'Alain Juppé au Quai d'Orsay y est pour beaucoup, parce que son propos est clair, compréhensible par tout le monde, et la ligne qu'il suit est droite. Nous sommes bien entendu du côté des aspirations démocratiques qui s'expriment dans le monde arabe, et nous le disons avec beaucoup de clarté. Nous sommes exprimés également de façon très claire contre les répressions qui ont lieu en Égypte, par exemple, ou dans la partie de la Libye contrôlée par Gaddafi. Sur M. Gaddafi, sur M. Bachar el-Assad, la diplomatie française a tenu des propos clairs et sans ambiguïté. Nous nous retrouvons de ce fait en harmonie avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui tiennent également une ligne droite sur ces régimes. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est certainement exprimer la sympathie et le soutien légitime que nous devons apporter à ces aspirations démocratiques et au développement démocratique dans les pays arabes, d'une part, et d'autre part, apporter une aide matérielle aussi pratique, aussi concrète que possible pour ceux qui s'efforcent d'établir des institutions stables et de rétablir une économie ébranlée par les révolutions. Voilà, c'est la ligne qui est exprimée très largement par notre diplomatie et à laquelle aujourd'hui nous nous tenons. Alors il restera à résoudre effectivement les problèmes concrets de savoir comment terminer l'opération libyenne et la terminer avec de façon prometteuse pour l'avenir de la Libye et comment s'exprimer sur les problèmes de la péninsule arabique qui nous sont moins immédiats mais qui sont extrêmement difficiles. Ils sont un peu le problème des Américains mais ils sont aussi bien évidemment le nôtre puisque tout se joue dans la péninsule arabique sur l'équilibre énergétique et sur l'équilibre futur du Moyen-Orient.
François Bujon de l'Étang, merci. Je rappelle donc que l'article que vous avez publié dans la Revue des Deux Mondes s'intitule « Printemps arabe, l'embarras des diplomaties occidentales ». François Bujon de l'Étang, nous avons donc inauguré avec vous la série des émissions thématiques qui traditionnellement marquent les étés de l'esprit public. Nous continuerons la semaine prochaine avec Christophe Guillouis et nous nous intéresserons aux fractures françaises. Puis le 24 juillet avec Gérard Grimbert, nous nous intéresserons à l'évolution du corps électoral en Europe. Et le 31 juillet commencera une autre série d'émissions thématiques qui tournera autour de l'Europe et de certains des pays qui la composent. Nous commencerons cette série avec Laurent Cohen-Tanucci et nous traiterons des institutions européennes, puis de l'euro le 7 août avec Jean Pisani-Ferry, puis du Royaume-Uni le 14 août avec Marc Roche, de l'Italie le 21 août avec Marc Lazare et enfin de l'Allemagne le 28 août avec Anne-Marie Le Gloanec. Je rappelle de manière préventive à nos auditeurs que le premier dimanche de septembre, nous ne serons pas là, non que nous ayons été pulvérisés dans l'azur, mais parce que France Culture, conformément à son cahier des charges, diffusera en direct une partie de la cérémonie au désert que organisent chaque année les protestants pour commémorer les persécutions dont ils ont été l'objet. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Bruno Sourcy, préparée avec Tanguy Blum et Pauline Muil, avec aujourd'hui à la technique Catherine Déréthée. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour la deuxième de nos émissions thématiques de l'été.